France Inter.
Allahu Akbar.
Tu m'as vu?
Mais je savais pas que...
Je savais pas que quoi?
Que tu étais croyant.
Ah, maintenant tu le sais.
Ah là, il manquait exactement 6000. Et puis arrête de me casser la tête avec ma grand-mère, je veux rien lui demander.
Je t'aime, grand-mère. Peut-être que je ne te l'ai pas assez montré, mais je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, je ne t'oublierai jamais.
Mais je sais très bien comment ça se passe là-bas. Votre petit-fils y reviendra pas.
Eh bien, nous sommes dans un petit salon d'un hôtel non loin de chez vous, Catherine.
C'est exact.
Vous avez l'air en forme.
Ben oui, on va faire comme si, de toute façon.
Ah bon?
Non, mais quand on vous dit que vous avez l'air en forme, de toute façon, je trouve qu'on se sent déjà, mieux au départ.
Et comme chaque soir, on va commencer en musique. Je sais que vous écoutez beaucoup de musique.
Pas mal, oui.
Alors, je vous propose de commencer avec PJ Harvey, ça vous plaît?
J'adore PJ Harvey.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I'm old. And now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl.
Pourquoi vous adorez Pete Gervais?
J'adore son univers, j'aime sa voix, j'aime ce qu'elle chante. Et puis, je l'ai vue en concert. Et j'ai été vraiment sidérée de la voir sur scène. Et moi, il y a des chanteurs et des chanteuses que j'aime beaucoup, mais j'ai autant de plaisir à les entendre que, voilà, j'ai pas forcément envie d'aller les voir en concert. Mais elle dégage physiquement quelque chose sur scène de très étonnant.
Vous avez été beaucoup au concert quand vous viviez les années Swinging London?
Pas tant que ça, non. Pas tant que ça, parce que j'avais un mari qui... J'étais mariée à l'époque avec un photographe anglais, David Bailey, et qui travaillait beaucoup. Donc les horaires n'étaient pas très compatibles. Non, on écoutait de la musique, mais on n'allait pas tellement en concert, non.
Bah, les Rolling Stones, vous les avez vus, vous les
oui,
avez
connus. Oui, mon dîner avec eux. Oui, c'est ça, voilà.
C'était... Ah, bah, c'est chic, ça.
Oh, chic, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Non, mais dîner avec Mick Jagger, c'est pas comme voir Mick Jagger sur scène. Ah, lui aussi, il est extraordinaire sur scène. Ça, c'est vraiment un groupe extraordinaire sur scène.
Étiez-vous une jeune fille sage ?
En apparence, oui. En apparence seulement, oui.
C'est-à-dire que tout de l'extérieur...
On m'aurait donné le bon Dieu sans confession, comme disait ma mère. Mais je ne sais pas. Oui, moi, j'étais élevée chez les religieuses.
Lesquelles ?
Ben, je ne sais pas, c'est la cornette, en robe noire. Ah ben oui. Et moi, qui suis déjà plutôt secrète et renfermée, ça m'a encore développé, je crois, le goût du secret, de caché.
Et vous étiez croyante quand vous étiez petite ?
Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Comme tous les enfants, j'avais peur de mordre l'hostie et de voir du sang qui se répande sur mon chemisier. Comme tous les enfants, j'ai eu cette image-là, cette crainte aussi de la confession qui paraît tellement une chose effrayante. Enfin, cette idée en même temps à la fois de la culpabilité et puis de la rédemption immédiate. Enfin, c'était quelque chose de très, très mitigé pour moi.
Vous avez fait votre communion ?
Oui, première communion absolument, oui. Puis après, je suis entrée au lycée, oui. Donc là, c'était très différent, tout s'est arrêté. Enfin, je veux dire, sur le plan religieux.
Pourquoi et comment ? En lisant des livres ?
Non, parce que ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas mon choix et ce n'était pas mes goûts. Et ça ne m'a pas marqué. Alors que j'ai une sœur plus jeune qui était lui aussi dans la même école que moi et qui, elle, était alors et restée très, très profondément croyante.
Trois filles ?
Quatre.
Quatre filles ?
Quatre filles, oui. Non, moi, dès que j'étais au lycée, ça a tout changé sur ce plan-là. Non, non, c'était fini. Fini, le catéchisme, tout ça, l'église... Les prières avant de rentrer à l'école, les prières après, les prières en cours de... C'était terrible, je me souviens, le nombre de prières qu'on faisait avant la récréation, après la récréation, c'était... Non, ce ne sont pas des bons souvenirs. C'est des souvenirs culpabilisants quand même, l'école catholique pour moi.
Et à quel moment vous avez eu l'idée de faire de votre vie une vocation, un destin ? Vous rêviez de quelque chose ? Je sais que le cinéma est arrivé complètement par hasard.
Oui, franchement, je ne rêvais pas du tout au cinéma ni à quoi que ce soit. Si je rêvais, c'était plutôt à l'amour. C'était ça que je trouvais le plus intéressant. À quel moment ? C'est pas vraiment une décision. Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir décidé vraiment quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'étais plutôt habitée par des choses de ma vie personnelle, de ma vie sentimentale qu'autre chose.
Je croyais que vous aviez eu envie à un moment de devenir peut-être archéologue.
Archéologue, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que tout ce qui touche à l'archéologie, la paléontologie, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Oui. Mais enfin, je ne peux pas dire que j'en ai eu envie. Ça m'est venu plutôt après parce que ça m'intéresse beaucoup et que je m'y intéresse encore un peu d'ailleurs aujourd'hui. Mais ce n'était pas vraiment un souhait de jeunesse, non. Non, moi, j'ai quitté vraiment le lycée pour rentrer dans le cinéma par hasard, pour jouer dans un film avec ma sœur. C'est comme ça que ça a commencé et que ça a continué tout à fait par hasard. Le hasard, jusqu'à ce que je rencontre Jacques Demy et que je fasse les Parapluies de Cherbourg, c'était pas du tout décidé. Dans ma tête, c'était pas clair du tout. Je savais pas du tout si j'allais continuer à faire du cinéma.
Vous parlez de préhistoire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la préhistoire ? C'est la recherche des origines, savoir d'où on vient, comment on a été constitué ?
Non, c'est plus prosaïque que ça. C'est un émerveillement devant les réalisations. Voilà, l'idée d'imaginer comment vivait... Les hommes à cette époque, de voir les réalisations, parce que moi j'ai visité des grottes ornées, donc c'est vrai que ça m'a vraiment bouleversée même, je dirais. C'est ça, mais ça s'arrête assez vite pour moi. C'est l'idée de savoir, oui, de penser aux origines, de penser à ces... Parce que de toute façon, je pense que tout le monde n'était pas des grottes, il n'y en a quand même pas non plus tant que ça, tout le monde n'avait pas, c'est comme si je disais, à une certaine époque, tous les gens étaient comme Delacroix, tous les peintres avaient du talent. Non, je pense que c'était vraiment des choses assez exceptionnelles. Il n'empêche que, vu la beauté, je veux dire, des choses, c'est vrai que c'est troublant de se dire qu'il y a tant de dizaines, de milliers d'années, déjà, les hommes pouvaient avoir instinctivement ce talent, cette...
Mais revenons à votre sœur Françoise. Donc.
Oui, enfin venons-y parce qu'on n'est pas...
Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure.
Oui, je l'évoquais parce que c'est
elle. Elle savait où elle voulait aller.
Ah ben elle voulait être religieuse d'abord et ensuite actrice. Et c'est ce qu'elle a fait. Enfin, elle n'a pas été religieuse, mais enfin, je veux dire, elle est devenue actrice assez jeune. Elle est entrée au conservatoire. Elle a fait du théâtre très jeune et puis du cinéma. Et moi, j'ai commencé au cinéma parce qu'on cherchait une jeune actrice pour jouer sa sœur dans un film et qu'elle m'a proposé de faire des essais. C'était les vacances scolaires et que mes parents ont accepté. Il ne savait pas dans quoi il me laissait rentrer.
Et vos parents étaient dans le cinéma ?
Non, plutôt dans le théâtre. Enfin, ma mère avait fait du théâtre quand elle était très très jeune. Elle avait arrêté après quand elle a eu des enfants, parce que 4 enfants, c'est quand même beaucoup. Donc, elle avait arrêté. Et mon père était acteur plutôt de théâtre. Et il dirigeait le doublage aussi pour la Paramount.
Donc, aucun des deux ne s'est opposé à la vocation de votre sœur Françoise, ni...
Ah non, ma sœur Françoise, ça n'était pas question de s'y opposer. Ma mère et mon père étaient tout à fait d'accord. Moi, c'est un peu différent. C'est parce que c'est les vacances scolaires. Ils ne pensaient pas que j'allais comme ça suivre dans cette voie. C'était pas du tout... Mais ma mère n'était pas emballée, mais enfin, ils ne m'ont pas empêchée non plus, hein. Et même après, ils ont accepté que je quitte le lycée pour continuer, parce que j'ai eu d'autres projets de cinéma assez vite pendant que je tournais ce film avec elle, d'ailleurs.
Et comment c'est venu si vite, à votre avis ? C'est à cause de votre visage, de votre présence ?
Je pense que c'est mon visage, parce que je sais que quand je tournais avec elle, quelqu'un a vu des scènes du film que je tournais et en a parlé, parce qu'il y avait un film qui devait se tourner avec Daniel Darrier-Mel Ferrer et qui cherchait... Une jeune actrice aussi, et que c'est Mel Ferrer qui décidait, je crois, beaucoup, et qu'il m'avait choisi moi, donc c'est quand même ça au départ.
Et vous saviez que vous étiez belle ?
Non.
Vous vous regardiez beaucoup dans la glace quand vous étiez une jeune fille ?
Ben oui, comme tout le monde, oui. Enfin, comme toutes les jeunes filles, je crois, oui. Oui, mais enfin, pas plus que ça non plus, parce que mes sœurs sont des assez jolies filles aussi, donc dans la famille, c'était pas quelque chose. Et puis ma mère ne voulait pas tellement qu'on parle... du physique. Non, et puis le physique, voilà, c'est une chose qui est donnée, il n'y a pas de quoi se vanter, quoi. Et ma fille me le reproche beaucoup, ça.
De l'avoir éduquée exactement dans la même...
Oui, moi, je trouve qu'on ne parle pas du physique, quoi. C'est... Oui, bien sûr qu'on peut dire à un enfant qu'elle est jolie, comme ça. Que...
Ah bah, mais vous bon... pouvez dire à Chiara qu'elle est belle, quand même.
Bah, oui, je lui ai dit, elle bien est sûr. Belle. Mais bien sûr, mais elle trouve que je ne l'ai pas assez, pas assez déclaré, mon amour et mon admiration, enfin, en tous les cas pour le physique, parce que c'est vrai que j'ai été élevée comme ça.
Qui vous a dit pour la première fois que vous étiez belle ?
Je sais pas. Est-ce qu'on m'a dit que j'étais belle ? On m'a dit que j'étais jolie, oui, je sais pas.
Ah, c'est pas pareil. Jolie et belle.
Ben, je suis d'accord, mais je sais pas si on m'a dit que j'étais belle. Belle peut-être plus tard, oui. Quand j'étais plus jeune, jolie, je sais pas qui m'a dit ça. C'est une chose qui fait plaisir, mais c'est toujours une chose un peu embarrassante aussi.
Il y avait votre présence aussi. À l'occasion de cet entretien, j'ai lu un long interview de quelqu'un avec qui vous avez travaillé, qui s'appelle Pierre Lhomme, chef opérateur.
Oui, oui, oui.
Et il dit quelque chose de troublant à votre égard. Il dit qu'il vous a connu très jeune, qu'il vous a filmé très jeune, au moment où vous commenciez à faire du cinéma pour un court-métrage, et que là, tout de suite, votre présence était là. Elle s'imprimait, cette présence.
Oh oui, oui, ben je devais avoir 17 ans à peine à l'époque, oui.
En fait, la rencontre avec le cinéma et le point de bascule dans votre itinéraire, ça a été le moment où Jacques Demy vous a considéré comme une actrice et pas comme une jolie fille.
Voilà, exactement. C'est vrai que pour moi, ça a été une révélation. Mais même le cinéma, la façon de filmer, la façon... et puis le fait que ce soit un film en musique, qu'on ait fait en playback, comme ça, entièrement chanté, la nuit, c'était quelque chose de tellement étonnant, ça m'a... Ah oui, ça a été vraiment très important. À partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit, si le cinéma, c'est ça, ça me paraît vraiment une chose assez merveilleuse.
Et la construction du film aussi.
Oui, tout. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez magique. Parce qu'il y avait quand même une émotion surtout assez étonnante. Rien qu'en écoutant la musique, avant même qu'on tourne le film, on était déjà ému en écoutant le film qu'on a enregistré avant, puisqu'il fallait évidemment le faire en playback. Moi, j'avais assisté à l'enregistrement à la salle d'avoue de la musique du film, et je me souviens que déjà, quand on l'enregistrait, on était déjà très, très ému.
L'histoire qui était racontée ressemble aussi un peu à celle que vous aviez vécue.
Pas vraiment. Alors, j'écoute votre version. Après, je vous donnerai la mienne.
La guerre d'Algérie ?
Ah, la guerre d'Algérie, oui. La guerre d'Algérie. Mon premier amoureux, en effet, est parti pour la guerre d'Algérie. Mais après, l'histoire du film, disons que oui, c'est des choses sur lesquelles je pouvais l'idée d'être amoureuse d'un homme, d'avoir un enfant, de ne pas se marier, d'avoir eu un fiancé qui était parti. Mais c'est vraiment le hasard, hein. C'est tout à fait le hasard. Je ne connaissais pas Jacques Demy, il ne me connaissait pas quand il a écrit le scénario.
Non, mais c'est troublant de...
Oui, oui, absolument.
Et
c'est
à chaque
vrai.
Fois qu'on revoit cette séquence, à chaque fois on est bouleversé, on a envie de pleurer.
Oui, c'est
quand
c'est...
il part faire la guerre d'Algérie,
oui,
cette ombre
qui... Le départ sur le quai de la gare, le départ de... Ah oui, oui, ça c'est... Mais déjà quand on l'enregistrait, c'était très émouvant. Hein. très très émouvant.
À quel moment c'est devenu un métier pour vous, le cinéma ?
Je ne sais pas si vraiment c'est devenu un métier.
C'est quoi alors, une occupation ?
Une activité principale.
Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi importantes que le cinéma en fait.
Enfin, il n'y en a pas tellement d'autres, mais enfin quand même, d'abord le goût du cinéma des autres, de voir des films, beaucoup de films, je vois quand même pas mal de films.
Vous êtes toujours aussi cinéphile ?
Enfin, je le suis assez, oui, pour une actrice, pas mal, oui.
Oui, parce que généralement, les actrices vont assez peu au cinéma.
Oui, ou en tous les cas, en général, elles n'aiment pas se voir à l'écran, donc elles ne voient pas ce qu'elles ont tourné, elles ne sont pas... Moi, j'aime regarder tout ce qu'on fait, même pendant le tournage, j'ai besoin de voir ce qu'on fait, Et pas seulement moi, ce que font les autres aussi, j'ai besoin de voir. Et je sais qu'il y a beaucoup d'actrices qui ne supportent pas de se voir, de voir les rushs, de voir les morceaux de film avant que le film soit fini. Moi, j'aime ça, ça m'intéresse. Oui, c'est important pour moi.
Vous voulez dire que vous mettez l'œil à la caméra ?
Jamais.
Jamais.
Je n'ai jamais mis l'œil à la caméra et je ne le mettrai jamais.
Sinon, pourquoi ?
J'ai l'impression que je serais Alice qui passe à travers le miroir, que ce serait de l'autre côté, que ce n'est pas à ma place.
Mais vous aimez bien connaître la construction du film,
ah oui,
la grammaire du cinéma.
Mais je ne regarde pas, par exemple, beaucoup de metteurs en scène maintenant travailler avec un combo, vous savez, c'est-à-dire qu'on regarde les images pendant le tournage, qui fait qu'à la fin de la prise, on sait ce qu'on va refaire. Enfin, ils veulent qu'on refasse les choses, mais ils ont déjà vu ce qu'on avait tourné. Et moi, je déteste ça. Je ne vais jamais regarder le combo. Jamais, jamais, jamais.
Pourquoi ? Parce que vous travaillez à l'instinct ?
Non, parce que je trouve que la vision, je veux dire, du combo n'est pas juste par rapport à ce qui vient de se passer dans la scène, par rapport au... Je trouve que c'est trop plat, je trouve qu'on ne voit pas les détails, je trouve qu'on ne peut pas voir la même... On ne peut pas voir l'émotion. Je pense que ce n'est pas comme si on regardait en direct, parce que la représentation du combo, c'est l'œil de la caméra et ce n'est pas l'œil humain. Je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait l'œil humain sur la scène de tournage pour enfin moi en tous les cas c'est comme ça, je sais que ça m'est arrivé par hasard de voir comme ça des bribes de scène et vraiment ça me plaît pas du tout, ça ne rend pas vraiment la réalité de ce qu'on vient de faire.
Vous aimez les plans séquences?
J'adore les plans séquences.
Pourquoi?
Parce que d'abord je trouve que dans un plan séquence c'est le rythme qu'on a décidé, donc en accord évidemment avec le metteur en scène, on se met pas à faire des choses. Mais disons qu'après, à l'intérieur de ça, on peut prendre son rythme, trouver son rythme. Quand on fait un plan séquence, on sait si ça marche ou pas, et il faut que ça marche jusqu'à la fin. Alors que quand on tourne des morceaux et qu'on fait un plan à deux, un plan à trois, puis ensuite un contre-champ et un contre-champ, après, moi, j'ai plus le sens du rythme de la scène.
Et puis, on est tous embarqués ensemble dans le plan séquence.
Voilà. Et tout le monde, et tous les techniciens, parce que c'est une tension beaucoup plus grande. C'est beaucoup plus difficile. Mais tous les metteurs en scène ne font pas des plans séquences, malheureusement.
Alors évidemment, on vous regarde depuis pas mal de temps. On connaît votre visage. Oh ben, vous soupirez. Ah
oui. Non, je ne soupire pas. J'allais dire, ben oui, depuis tellement de temps, oui. Non, c'est parce que vous avez dit pas mal de temps.
Ah ben, ça fait combien de temps qu'on vous voit au cinéma ?
50.
Oh la vache.
Je pense, oui, oui, c'est ça. Oh, oui, oui, plus. Plus même.
Waouh.
Ouais. Alors quand je le dis, ça me paraît abstrait même. J'arrive pas bien à réaliser 55 même.
Vous nous accompagnez, vous êtes de toutes nos aventures psychiques.
Oui, oui, c'est assez bizarre. Enfin, quand j'y pense, parce qu'heureusement, je ne vis pas avec cette idée-là, je ne vis pas avec ça, mais quand j'y pense, c'est vrai que ça me paraît assez bizarre.
Bah, ça doit être lourdingue de s'appeler, oui, Catherine Deneuve.
Ah ben oui, mais enfin, heureusement, je ne m'appelle pas Catherine Deneuve au quotidien, parce que sinon...
Comment vous appelez ?
On m'appelle Catherine. Non, mais je vis avec des gens avec qui je vis dans mon univers familial et quotidien. Moi, je vis beaucoup dans mon quartier. Je suis donc familière.
Oui, d'ailleurs, personne ne vous embête dans votre quartier.
Pas trop, non. Le week-end, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Mais dans la semaine, non, je suis tranquille. Ça fait tellement longtemps que je fais partie du décor de la place Saint-Sulpice.
Mais je voulais parler de votre voix. Aussi, oui, parce oui. que je vous sais très attentive à la matière sonore des films dans lesquels vous tournez.
Des films en général. C'est pour ça que je dis toujours que je préfère voir les films en salle. On me dit, mais tu peux le voir, tu pourras le voir. Je sais pas. Je dis non, je n'aurai pas le même son, je n'aurai pas pas du tout la même impression, parce que le son, pour moi, c'est la moitié de l'image. Oui. Ah oui. Moi, j'ai pas l'impression de changer ma voix ou d'essayer de changer ma voix, mais simplement, je pense qu'il y a aussi les voix du matin, les voix du soir, les voix fatiguées, les voix joyeuses. Quand les voix sont joyeuses, elles sont beaucoup plus hautes. Les voix du soir sont plus graves. Celles du matin, des fois, encore plus graves, parce que je suis fumeuse.
De cigares ?
de cigares. Non, heureusement, pas. Enfin, heureusement. Déjà, on vous interdit la cigarette, mais alors le cigare. Non, non, pas de cigare.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit, comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de...
Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui vous avez eu des maîtres en cinéma ou en peinture ou en musique?
Je pense qu'il y a des gens qui m'ont influencé, sûrement. Je pense que le fait d'avoir eu un amoureux très jeune qui était très cinéphile, je pense que ça a été très important dans ma vie. C'est vrai que je me souviens d'avoir vu le film d'Eisenstein. Je devais avoir, oui, à peine 16 ans. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, c'était quand même assez jeune. Et je pense que ça a eu une certaine importance. Et puis ensuite, oui, j'ai connu des gens qui étaient plutôt des cinéastes, oui. Jacques Demy, ou que ce soit François Truffaut ou Jean-Paul Rapneau. Enfin, j'ai connu des gens qui étaient plutôt des cinéastes. Et donc, si on est curieux, je veux dire, c'est vrai qu'on apprend quand même beaucoup de choses. Cinéma, musique, musique et peinture, je pourrais pas dire si j'ai été vraiment... Non, je pense que la peinture, je l'ai vue, c'est vrai, peut-être un peu différemment, parce que j'avais un ami que j'aimais beaucoup, qui était un très grand graveur, qui avait travaillé avec des très grands peintres, Donc j'ai vu des choses, puisque donc lui faisait quand même des gravures d'après des tableaux, mais surtout une façon de parler de la peinture, d'une façon très personnelle. Donc oui, ça a dû aussi me... Enfin, quand on parle d'influence, je ne sais pas si c'est le mot juste. En tous les cas, je pense que c'est une façon d'ouvrir les yeux différemment, de voir les choses différemment, parce que quelqu'un vous donne un autre éclairage, ou en tous les cas, utilise d'autres mots que ce qu'on peut lire dans les livres ou les articles comme ça sur les grands peintres ou les grands musiciens.
Au fond, c'est l'invisible qui vous intéresse. Chercher la vérité le plus loin possible.
Oui, d'une certaine façon, oui. Mais c'est aussi l'idée de voir, d'avoir l'impression de voir avec ses propres yeux. C'est-à-dire qu'on vous donne des clés qui vous permettent de voir les choses peut-être un peu différemment. Ou d'entendre les choses différemment.
Et est-ce que l'expérience de la vie artistique... Quand vous allez dans les musées, je sais que vous êtes très féru d'art contemporain, quand vous allez au cinéma, est-ce que cette absorption de beauté peut contribuer à composer le personnage que vous allez interpréter dans le film suivant? Est-ce que tout ça se mélange ou est-ce
que
c'est séparé?
Se mélange. Je pense que les choses se mélangent parce que je pense qu'on n'est pas... On n'est pas fait de plusieurs... Je pense que les choses se mélangent toujours, ce que l'on est dans la vie, ce qu'on est dans le travail... Moi, l'impression que j'ai quand je vais au musée ou si je vais au cinéma et que je vois quelque chose qui me... C'est l'idée d'être transporté, d'avoir un sentiment de joie très grande, de joie, vraiment de joie. Et je trouve qu'il n'y a pas tellement de choses qui vous donnent de la joie dans la vie. Il n'y a pas tellement de... Oui, les enfants, si, les enfants, ça donne beaucoup de joie. Mais ça ne dure pas longtemps après, les enfants.
Il y a la beauté des paysages aussi. Je pense au dernier film de Téchiné, où il vous a filmé dans des champs de cerisiers en fleurs. C'est sublime.
Ah oui, la photo, les images qu'il a. Et puis en plus, c'était vraiment des choses qu'il voulait dès le départ et qui étaient donc un gros problème par rapport aux saisons d'ailleurs, parce qu'on a tourné le film, c'était la fin de la floraison des cerisiers. et on a fini le film pour avoir la récolte des cerises, et on a fait ça dans la continuité. Or, on a tourné en quelques semaines, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, les films, c'est maximum 7 semaines, hein, donc c'était vraiment... Et ça, c'était vraiment une chose qu'il avait décidé, qu'il voulait, donc il avait vraiment... Il voyait vraiment ce qu'il voulait filmer, comment il voulait le filmer, mais André Téchiné, il a une vision de peintre, parfois, il a une vision très, très large, très profonde de la nature et surtout des gens et des personnages, en tous les cas, dans des paysages.
Avez-vous l'impression d'être une muse pour certains des cinéastes? Je pense notamment Truffaut, Buñuel, Téchiné.
Non, muse, je ne pense pas que c'est le mot vraiment, parce que muse, c'est quelqu'un qui inspire. Alors que moi, j'ai plus l'impression d'être rentrée, disons, dans des histoires qui étaient déjà en gestation, qui étaient déjà... Buñuel n'a pas tourné Belle de jour, n'a pas inventé Belle de jour pour moi, et le Tristana est un film que j'adore, était un roman quand même très connu. Donc, mais ce que j'espère, c'est d'au moins de devenir une muse le temps du tournage, c'est-à-dire quand on tourne, d'être quand même inspirante pour le metteur en scène.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il vous désire.
Oh, le mot est fort. Non, mais c'est vrai, il y a des metteurs en scène avec qui j'ai tourné plusieurs fois, comme notamment. André Téchiné, c'est vrai que on a une relation, c'est un peu particulier, on a une relation quand même assez forte et assez suivie, parce que ça fait tellement longtemps, je veux dire, qu'on se connaît, qu'on se voit, on n'est pas toujours d'accord sur tous les films, enfin on est quand même souvent d'accord sur le cinéma et sur les films.
Là, on parle des cinéastes ultra connus et reconnus, mais ce qu'il y a de remarquable chez vous, c'est que vous avez aussi choisi, et vous continuez à choisir, des jeunes cinéastes, et ce depuis le début de votre itinéraire, parce que quand vous avez tourné Répulsion avec Polanski,
ah oui, il était
personne
inconnu.
Le connaissait.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est quand même plus normal que je tourne avec jeunes metteurs en scène, parce que moi, je continue de grandir et que j'ai un certain âge et que les metteurs en scène ont l'âge, voilà, qu'ils ont quand on commence à faire du cinéma. Donc, c'est normal que l'écart soit de plus en plus grand. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, mon goût pour les jeunes cinéastes n'est pas du tout lié à l'âge, la preuve. D'ailleurs, c'est vrai que jeune, j'étais attirée par... Donc, c'est plus la curiosité, l'énergie que je ressens chez des jeunes gens ou des jeunes femmes par rapport à un projet qu'ils portent.
Vous dites grandir. Qu'est-ce qui grandit en vous à chaque expérience?
Je crois que je connais mieux mon désir. Je sais mieux certaines choses qui me permettent d'éviter certaines erreurs. Et ce qui me permet pas, évidemment, d'en éviter d'autres. Hein. On a toujours des choses nouvelles qu'on n'a pas appréhendées. Puis heureusement, d'ailleurs, qu'on n'est pas... Parce que si j'avais l'impression de me retrouver devant... dans une situation où qui me serait déjà familière ou qui serait exactement quelque chose que j'aurais déjà vécu, ça, je serais très embêtée, quand même. Alors, je dis pas qu'à chaque fois, ça peut être la nouveauté, qu'on apprend et qu'on découvre des choses. Mais quand même... Non, pas de répétition, en tous les cas, par rapport à... En même temps, on croit ça, et puis en même temps, je pense que malgré tout, il y a quand même des répétitions, mais il faut essayer de tendre à quelque chose de... Voilà, comme si c'était une chose qui se passait pour la première fois, et ce sera la seule fois.
Avec Kore-eda, vous venez de terminer de tourner un film qui s'appellera La Vérité.
C'est bizarre comme titre.
Bah oui, surtout par rapport à votre histoire cinématographique.
Mais pas seulement par rapport à moi, par rapport...
Oui, bah c'est pas mal, non? Ça vous va bien? Mais c'est la première fois que vous tournez avec lui.
Oui, mais alors ce qui est étrange, c'est que c'est un cinéaste qui ne parle aucune langue que la sienne. On communiquait avec une interprète sans toujours. Donc c'est assez étrange comme expérience. Car on a tourné en français, j'ai tourné avec Juliette Binoche, et on jouait en français, et lui ne comprend absolument pas le français. La première semaine, ça a été un peu de tâtonnement, ça a été très particulier quand même. Parce qu'il fallait s'habituer à l'idée qu'on passait sans arrêt par une autre personne pour... ou pour dire des choses, ou pour se faire dire des choses. Et donc, il tourne dans une langue qui n'est pas la sienne. Donc, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais c'est vrai que ça va être étrange, parce que ce sera pas un film japonais. Ce sera pas un film de Kore-eda au sens comme les gens l'imaginent. Donc, je suis un peu curieuse de voir le film, de voir ce qu'il en est.
Mais je croyais que dans certains tournages, vous n'aviez pas eu la possibilité de... pouvoir parler avec le metteur en scène, par exemple avec Buñuel.
C'est la seule fois, hein, quand même.
Mais c'est terrible, ça.
Enfin, c'était pas tellement de pas pouvoir parler, c'était de pas pouvoir discuter vraiment, et surtout de pas pouvoir voir ce qu'on avait tourné. Mais je crois qu'il y a des metteurs en scène qui veulent pas, hein, que les acteurs voient les rushs. Enfin, Moi, maintenant, on ne va pas me dire ça, c'est trop tard. Tout le monde sait que je fais des films, que je vois les films, que je vois les rushs et que je vois tout et que tout le film m'intéresse. Donc, ça paraîtrait très bizarre de ne pas suivre.
Mais... Vous contrôlez votre image ?
Non.
Non, vous en foutez ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais le contrôle...
Donc, vous le contrôlez ?
Bah non, non.
Non, vous laissez aller.
Mais c'est-à-dire que je laisse aller, je fais, je regarde. Éventuellement, s'il y a des choses que... Mais disons que je ne suis pas focalisée sur... Sur ma personne, quand je vois les rushs. C'est vrai que si, quand on regarde au début, on ne regarde que soi. C'est comme la première projection du film qu'on a tourné. Moi, il faut toujours jouer le film deux fois, parce que la première fois, on se regarde beaucoup plus qu'on regarde le film. C'est normal. Moi, quand on tourne le film, je ne me vois pas... Enfin, je ne m'imagine pas... Si, je peux avoir des déceptions, donc essayer de rattraper des choses. Mais sinon, contrôler l'image, non, ce n'est pas trop... D'ailleurs, je suis exigeante, mais je ne suis pas intransigeante.
Ça veut dire quoi, exigeante ?
Exigeante, c'est quand même attendre un minimum de choses, de la part de ceux qui vous éclairent, qui vous coiffent, qui vous maquillent. Mais je suis pas intransigeante, non.
De respect.
Non, le respect, c'est pas trop, ça m'intéresse pas trop, non. C'est plutôt de respecter le personnage qu'on est supposé faire. Non, c'est pas une question de respect, non. Non, c'est plus une question d'essayer de faire le maximum pour aller dans le sens de, voilà, que ce soit le mieux possible pour le film. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment on ne peut pas dire que ce soit ma personne, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, ce qui est le plus important pour moi, c'est le film.
Je sais que vous avez été voir la pièce de théâtre à l'Odéon de Christophe Honoré,
oui.
Qui racontait une partie...
Incroyable.
C'était magnifique.
Incroyable.
Et vous y êtes un personnage principal, interprété par une actrice.
Oui, c'est très drôle.
Et vous étiez dans la salle en train,
oui,
de regarder Catherine Deneuve, en train de chanter.
Oui, enfin, j'étais surtout en train de regarder Christophe Honoré, qui a adapté, je veux dire, comme ça... L'idée de plusieurs cinéastes, auteurs,
joué
par
Demi.
Des femmes, Jacques Demi interprété par une femme, une actrice absolument formidable. Donc c'était plutôt ça. C'est, je me suis pas vue moi.
Oui, donc ras-le-bol de Catherine Deneuve. Catherine,
ah non, tout. Non, mais j'ai un phénomène de dédoublement, si vous voulez, par moment. Je vis pas avec moi comme ça tout le temps. Hein.
Bah, vous êtes bien une seule et même personne puisque vous avez décidé de pas avoir de d'autres noms que le vôtre.
Oui, mais je ne suis pas la même personne quand je suis là avec vous en train de parler, que je vais être dans une heure avec ma fille si je vais prendre un café avec elle, ou dans deux heures quand je vais retrouver une amie pour aller au cinéma. C'est d'autres facettes, c'est d'autres...
L'amitié avant tout, les enfants avant tout.
Ah, l'amour avant tout, oui.
L'amour avant tout.
L'amitié, c'est de l'amour.
Vous avez entendu les nouvelles aujourd'hui,
non,
sur l'Alabama, ce qui se passait en Alabama ?
Non.
Eh bien, ils sont en train... d'essayer de faire voter l'interdiction de l'avortement.
C'est pas possible. Un retour en arrière comme ça.
Y compris en cas de viol.
Mais quelle horreur.
Alors donc, souvenue que vous aviez signé le manifeste des 343 salopes.
Oui, absolument. Oui, je me souviens très bien, bien sûr. Oui.
Vous avez toujours été engagée dans les combats de femmes.
Et pas tous, après, franchement, pas tous.
Bah, pas mal.
Oui, enfin récemment, je ne peux pas dire quand même que j'ai été tellement engagée dans les combats de femmes, en tous les cas, de la plus grande partie des femmes. Hein, je veux dire, moi, je suis très circonspecte sur le MeToo.
Ah bon ? Ben alors, justement, vous avez signé une pétition,
oui,
qui vous a valu pas mal de commentaires.
Oui, très négatifs, ce que je peux comprendre.
Oui, mais...
Mais il a fallu cette
j'aimerais
pétition...
J'aimerais bien que vous expliquiez sur cette signature,
bah, je parce
que cette signature
parce
n'est
que
pas
j'ai
forcément
répondu.
Acquiescement total.
Voilà, c'est ça le truc.
Et je vous ai toujours connue comme une militante,
oui, mais...
pour les droits des femmes. Alors...
Oui, mais alors je vais vous dire, ce qui se passe, c'est que cette pétition est arrivée très tard chez moi. Il fallait répondre dans la journée. C'était vraiment ultra rapide et ultra pressé. Donc j'étais d'accord avec l'ensemble des choses, mais il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans la pétition. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Mais je trouvais que la plupart des choses qui étaient importantes à mes yeux étaient là. Donc j'ai dit, je la signe quand même parce que ça me semble... Et je ne dis pas ça pour me dédouaner après coup parce qu'il y a eu des commentaires négatifs. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui me plaisaient moins. C'est pour ça que j'ai fait une réponse dans Libération pour dire voilà ce que j'en pensais par rapport à cette pétition et ce que je pensais. Mais sur le fond, je n'ai pas changé d'avis hein, quand même. Mais je pense qu'il y a quand même, une exagération très, très, très grande de la part des Américains, surtout, qui donnent la note. Hein. C'est eux qui ont donné la note par rapport à cette attitude vis-à-vis des hommes et du harcèlement. C'est vrai que, je ne vais pas même être du côté des hommes, parce que beaucoup d'hommes ont dit « Ah, c'est bien une femme qui... » Non, mais ce n'est pas le fait de défendre les hommes, c'est l'idée de se dire que les hommes et les femmes puissent avoir un rapport... normal et qu'on puisse éventuellement chercher à rencontrer ou à voir quelqu'un ou à parler avec quelqu'un d'une façon plus personnelle, plus intime, sans que ça devienne, que ce soit qu'on dirait comme du harcèlement. Pour moi, la chose la plus importante qui devrait être faite, la chose vraiment la plus importante, c'est qu'une charte soit signée dans toutes les organisations, dans toutes les professions, à partir du moment où il y a plus de 4 personnes, qui oblige vraiment les hommes et les femmes à avoir une attitude normale et que ce soit une cause de renvoi ou en tous les cas de démission. Mais il faudrait que ce soit une chose signée au départ et que les hommes et les femmes sachent, enfin surtout les hommes, qu'ils sachent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que franchement, il y a des choses très excessives maintenant aux États-Unis, hein, très très excessives.
Oui, comme le fait de ne pas pouvoir prendre un ascenseur, d'être surveillé en permanence, interpréter des gestes, etc.
De s'excuser si jamais on a tout frôlé l'épaule de quelqu'un. Non, franchement, c'est vraiment...
Vous n'avez jamais été
embêté
en proie?
Si, bien sûr, si. J'étais embêtée, oui, bien
mais
sûr.
Mais vous donniez des claques?
Non, je ne donnais pas de claques, mais je veux dire, j'étais embêtée comme toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes ont été embêtées parfois dans leur vie quand on est, disons, quand quelqu'un qui ne vous intéresse pas insiste un peu trop, de trop près à vous. Mais ça fait partie de la vie. Moi, je ne parle pas de gens qui m'ont agressée vraiment physiquement au point d'eux. Je n'ai pas connu cette situation-là. J'ai connu des situations un peu extrêmes, mais pas des situations qui allaient jusque-là. Il n'empêche que c'est une bonne chose, dans le fond. Simplement, je trouve que ça a pris vraiment... ça a pris des allures... vraiment, moi, quand je vois aux Oscars toutes ces femmes habillées en noir pour manifester leur soutien, je trouve ça franchement assez, assez ridicule. C'est la démonstration de ça que je trouve ridicule. Parce que je trouve que, dans le fond, on peut agir d'une façon très personnelle et très... Mais de là à faire ces démonstrations en groupe, en se tenant le bras... Mais je pensais la même chose aussi quand j'ai vu les actrices noires à Cannes. Il y a quelque chose qui m'a gênée. Et je comprends qu'elles soient souvent dans une situation sans doute difficile du fait de... Mais d'un seul coup, il y avait quelque chose d'excessif et de... Je trouvais ça dérangeant. Mais je sais que ce que je suis en train de dire là maintenant va m'être reproché beaucoup. Hein.
En même temps, la parole...
Oui, mais enfin, c'est ça, la parole. Moi, ma
la parole s'est libérée.
Oui.
Les combats des femmes ont continué, y compris sur le plan du cinéma. Vous avez vu qu'à Cannes, quand même, les femmes réalisatrices se retrouvent quasi majoritairement à égalité. Ça, vous vous en félicitez ou cette politique
je
de quotas
je m'en félicite.
Vous
ça, les quotas, les salaires à égalité entre mes femmes, tout ça, je trouve ça tout à fait... Alors ça, je trouve ça tout à fait bien. Moi, je parle plutôt du harcèlement physique et du fait qu'on remet les hommes dans une position où, je ne sais pas, je pense qu'on va peut-être malheureusement, évidemment, assister à des choses... d'excès dans l'autre sens parce que c'est une situation quand même qui n'est pas naturelle. Mais enfin, peut-être qu'il fallait aller aussi loin que ça de l'autre côté pour revenir à quelque chose de plus juste. Enfin, j'espère.
La première émission avec vous va se terminer. On va se retrouver demain avec Gilles Clément. Une dernière question. Quel sera votre prochain film?
Alors, je pars tourner avec deux jeunes réalisateurs dont c'est le premier film à La Réunion dans 15 jours. Une comédie avec Vincent De Dienne, une chose, une fille vraiment assez, assez drôle, vraiment une comédie. Et je m'en réjouis.
Bon, ben à demain alors.
À demain.
mind instead of fist, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll, let it crash down low. See my house down there, but I lost it long ago. Lost it long ago. Na 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 na.
Et c'est avec Sisyphus d'André Bird que nous nous quittons ce soir, en espérant vous retrouver demain pour un Catherine Deneuve numéro 2 qui a invité le paysagiste Gilles Clément pour une conversation. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Elodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy qui ont préparé cette émission. Et merci à Lilian Allôme qui l'a réalisée. À la régie, il y avait Marc Garvenès.